marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Je suis une déesse, souviens-toi.
Nous t'en prions, déesse.
Le polythéisme grec.
Il n'y a pas un credo qui définit ce qu'est la foi grecque. Il y a un certain nombre de dieux, sur ces dieux on raconte un tas d'histoires. Ces histoires ne sont pas gratuites, on ne peut pas raconter n'importe quoi au sujet de Zeus, parce qu'il s'agit de bien voir qu'il est le souverain du monde, celui qui fonde son ordre, mais ça n'est pas de l'ordre de la dogmatique. Il n'y a pas de clergé en Grèce.
Ainsi parlait Jean-Pierre Vernant, qui portait les deux plus beaux titres qui soient, compagnon de la Libération et professeur au Collège de France. Il y tenait la chaire d'études comparées des religions antiques. Études comparées des religions. Une démarche scientifique s'est établie peu à peu, à la fin du XIXe siècle, qui détachait l'étude des religions de la théologie et la menait sur le chemin du comparatisme. À Paris, c'était l'École pratique des hautes études et le Collège de France qui privilégiaient cette démarche. Bien avant Vernant, un homme l'incarna, Alfred Loisy. Il cherchait à contextualiser Jésus dans l'histoire de son temps. Jésus, disait-il, a prêché le royaume de Dieu et nous avons eu l'Église. Ordonné prêtre dans sa jeunesse, il avait été crossé par ses supérieurs et excommunié par le pape. En revanche, l'école le nomma directeur d'études, puis le Collège de France professeur. En 1909. Loisy disait encore que l'étude impartiale et sereine du passé religieux de l'humanité pourrait participer à la solution des graves problèmes de notre époque. On peut ainsi remarquer que les polythéismes furent plus répandus que les monothéismes, mais les crispations religieuses sont-elles aujourd'hui qu'il n'y a que ceux qui sont déjà apaisés qui entendent cette simple observation.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Simple observation que Vinciane Pirène Delforge reproduit dans la conclusion de sa leçon inaugurale au Collège de France. Bonjour Vinciane Pirène.
Bonjour.
Pirène, alors, aux humoristes belges qui connaissent l'histoire de leur pays, ça fait penser à la lignée de Henri, Jacques Henri et d'autres encore. Mais vous, vous êtes d'une autre branche des Pyrénées et vous fondez une lignée, en même temps que vous inscrivez dans une lignée de professeurs au Collège de France. Vous présentez le Collège de France, Vinciane Pirène, comme une île fortunée, un jardin d'Éden. Vous avez été malheureuse à l'université de Liège ?
Absolument pas. J'y ai été très heureuse et j'y suis encore heureuse puisque je reste attachée à l'université de Liège pour une toute petite fraction de charge. Non, ce que j'ai évoqué en parlant du Jardin d'Éden dans ma leçon inaugurale, c'est simplement le fait que le collège est un endroit exceptionnel en permettant à ses professeurs de se consacrer entièrement à leur recherche.
Tandis qu'à l'université aujourd'hui ?
Ce n'est pas le cas. L'université aujourd'hui, et pas uniquement en Belgique, ça vaut absolument pour la France et pour d'autres pays, il y a une accélération des attentes et une multiplication des tâches qui s'abattent sur les enseignants-chercheurs et qui commencent à rendre le métier extrêmement difficile. Et là où la passion prévalait dans un cadre de confiance où la recherche pouvait se mener en liberté, maintenant vous avez presque du travail à façon. Ça devient extrêmement difficile.
Il faut bien
difficile.
Vous évaluer quand même, disent les experts S-Management.
Oui, je n'en disconviens pas. Nous ne pouvons pas échapper à la tendance générale de l'évaluation. Je pense qu'il faut simplement raison garder, et c'est une question de proportion. À partir du moment où on vous fait évaluer tout et n'importe quoi, l'évaluation perd sa légitimité et son intérêt.
Exemple.
On m'a récemment sollicité pour évaluer, et nous sommes deux à l'avoir fait, une demande de crédit pour un colloque, et cette demande de crédit concernait 1800 euros. Nous sommes donc deux universitaires à nous être penchés sur ce malheureux programme de colloque pour donner un avis, afin que ces organisateurs obtiennent 1800 euros. Le système devient fou.
Alors, comme vous le dites dans votre leçon au Collège de France, vous entrez dans le domaine de la liberté sans l'étasser de ces considérations générales. Partons pour la Grèce, que vous peignez comme un ensemble d'un bon millier de cités où des hommes partageaient leur territoire avec des dieux et des héros dans la multiplicité et la cohabitation.
Absolument. Ça, c'est vraiment une définition de la cité à laquelle je tiens. Donc, vous venez de l'évoquer, au IVe siècle avant notre ère, il n'y a donc pas d'unité politique de ce que nous appelons la Grèce, mais uniquement une unité culturelle. La politique, c'est un bon millier de cités qui sont absolument autonomes, absolument indépendantes les unes des autres, et qui sont effectivement composées d'une communauté d'hommes qui prennent leur destinée en main et qui interagissent avec des dieux et des héros. Donc, les dieux et les héros font partie même de la substance de la cité.
Alors, comment se fabrique le divin ? C'est le titre d'un de vos livres. Vos livres sont souvent collectifs ou faits au moins à quatre mains. La fabrique du divin, c'est la fabrique d'actes, de prières, de sacrifices, lesquels vont d'ailleurs après constituer le divin. Nous sommes un petit peu avant la date que vous avez citée tout à l'heure, nous sommes au 5e siècle avant notre ère, dans La paix d'Aristophane. C'est une réalisation radiophonique de René Jeantet, France Culture 1967. Voici l'instant du sacrifice.
À présent, prions. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ces... Qu'est-ce que c'est que ces gens-là, ce public ? Penses-tu qu'ils soient honnêtes ?
Allons, que je m'occupe de ceux que je vois devant moi, car je t'assure qu'ils sont gens honnêtes. Voilà ! Oh là là ! Oh là là !
Gens honnêtes, dis-tu ?
Bah, puisqu'ils n'ont pas bougé quand je les ai aspergés. N'est-ce pas qu'ils sont honnêtes ?
Admettons. Et prions.
Entendu. Prions.
Ô très auguste reine, déesse, paix, adorée, patronne des cœurs, patronne des noces, daigne agréer ce sacrifice.
Oui, toi, déesse, avec nous, livre-toi franchement.
C'est vrai. Découvre-toi par Zeus tout entière, comme une honnête femme. Ouvre-toi à nous tous. Arrache du fond de nos cœurs ce soupçon maladif qui nous fait constamment douter les uns des autres. Pétris tous les Hélènes. Fais de nous une bonne pâte. Fais que notre marché soit bourré de bonnes choses. D'âge venu de Mégare, avec les frais concombres, les coins et les grenades, ainsi que les petits mantelets pour esclaves. De chez les Béotiens, que l'on voit courir des gens portant des oies, des canards, des pluviers.
C'est chez nous.
Nous t'en prions, déesse.
Ôtez-moi d'un doute, Vinciane de Pirène, ils sont sérieux ou ils rient ?
Ah, mais vous avez les deux. C'est-à-dire, c'est ça qui est fascinant. Vous êtes dans le contexte d'une comédie, donc il est clair que Aristophane écrit cette pièce pour faire rire le public athénien, et il va jouer sur tous les ressorts qui sont à sa disposition pour ce faire. Mais en même temps, et c'est ça qui est fascinant pour le chercheur d'aujourd'hui, il nous donne des indications extrêmement précieuses sur la représentation des dieux et la manière dont la communauté entrait en communication avec eux. C'est vraiment un passage que j'aime beaucoup, parce que c'est un des rares cas où on a une description d'un sacrifice, si on met de côté l'épopée. Et donc Aristophane, là, nous donne en live, dirait-on aujourd'hui, l'accès à cette performance sacrificielle. Et j'aimerais attirer l'attention de vos auditeurs sur un point. Ici, on a la divinisation de la paix. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce n'est pas une pure allégorie. Nous sommes dans un cadre où la paix pouvait être ressentie comme une puissance divine. Et ça doit être pris au sérieux. Même si le public rit, ce n'est pas incompatible.
Mais vous intéressez beaucoup au texte, mais la nouveauté ne vient pas seulement de l'interprétation des textes. Pour les historiens de la Grèce antique, la nouveauté vient largement maintenant de l'épigraphie, de l'archéologie. C'est comme si on retrouvait, nous avons des ex-voto sur les murs de nos églises, des quantités d'ex-voto qui expriment l'attente des
Absolument.
Grecs.
Absolument. Absolument. Donc l'épigraphie, c'est l'étude des inscriptions. Qui sont donc conservés sur des supports non périssables. Et donc, vous avez certes des milliers d'ex-voto, des milliers de dédicaces, et c'est effectivement absolument touchant et passionnant. Et l'épigraphie, les inscriptions, c'est aussi notamment tout ce qui concerne les normes rituelles, toutes les prescriptions qui sont émises à cet égard. Et donc, là où la littérature a été filtrée par 2000 ans de tradition manuscrite, enfin, moins de 2000 ans, mais par la tradition manuscrite, les inscriptions nous permettent d'avoir une vision instantanée qui surgit directement de l'Antiquité, sans médiation. Alors ce n'est pas nécessairement plus facile à interpréter, mais au moins on est en phase immédiate avec le passé qu'elle révèle. Donc ça c'est pour l'épigraphie. Et puis l'archéologie, bon, c'est pour l'étude des sacrifices, puisqu'on parle de sacrifices avec la paix d'Aristophane, pour l'étude des sacrifices, c'est fondamental et c'est quelque chose qui est relativement récent. Maintenant, sur les chantiers de fouilles, on fait extrêmement attention à récolter les ossements d'animaux et à les analyser de façon extrêmement précise. Ce qui permet d'avoir une vision de la découpe des animaux sacrificiels qui est beaucoup plus fine qu'avant.
Alors, il paraît que le tablier qui ornait les statues d'Artémis représentait les testicules des taureaux sacrifiés. Je vois, vous en étouffez en buvant de l'eau. Mais on dit aussi que ce sont les mamelles. Parce que je voulais qu'on parle maintenant, après les actes, des lieux. Et nous sommes ici dans un lieu dédié à Artémis.
Dans l'Antiquité, la cité d'Éphèse occupait la vallée du Kestros qui descend vers la mer et dont les alluvions ont repoussé la ville à l'intérieur des terres. Célèbre par le temple d'Artémis, une des sept merveilles du monde, où l'on vénérait l'Artémis polymastros, c'est-à-dire l'Artémis aux nombreuses mamelles, symbole des sources vives de la nature, Artémis protectrice des navigateurs, des bêtes sauvages et des jeunes filles.
J'ai choisi cette cour parce qu'elle a l'exacte dimension du temple, là où se dressera l'image de la déesse, à l'emplacement où tu la vois maintenant.
Puis-je la regarder ?
Non, pas encore. Ce serait comme vouloir apercevoir l'enfant dans le ventre de sa mère. Encore l'enfant croit-il sans cesse. Mais mon ébauche est froide et pétrifiée. Elle ne vit pas. Et j'attends. Pourtant, comme je l'ai supplié. Elle est la mère, la déesse au large sein, la généreuse. Mais que peuvent sans elle mon imagination laborieuse et mes mains rebelles?
Oh, je comprends. Nous connaissons tous ces terribles moments où le doute s'installe.
Il ne faut jamais douter. Indigne est celui qui doute.
La fabrique du divin par les mains du statuaire. Nous sommes dans une réalisation de Michel Subiela pour Antenne 2 en 1977, la statue d'Artémis. Mais vous parlez aussi bien d'autres statues. Vous avez rapproché d'ailleurs dans un texte la statue d'Artémis de la statue d'Aphrodite. Et là, on est dans une autre pièce qu'Aristophane. On est dans Euripide, l'histoire d'Hippolyte, le beau-fils de Phèdre, et sont représentés la statue et le temple d'Artémis, la statue et le temple d'Aphrodite dans un théâtre à Athènes.
Probablement pas le temple, mais en tout cas deux statues, puisque nous sommes censés être dans le palais de Thésée. Donc c'était probablement deux statues. Et bon, pour autant qu'on puisse reconstituer la mise en scène, la référence à ces deux déesses est évidemment au cœur même de la compréhension de la tragédie. Hippolyte a agi en... Je dirais, contrairement à toute vision polythéiste du monde suprahumain, puisqu'il a choisi une seule déesse. Et il n'honore qu'une seule déesse, à savoir Artémis. Et si vous n'honorez qu'une seule déesse dans un monde divin qui en compte beaucoup, vous êtes sûr que vous allez vous aliéner certaines des autres divinités, et ça peut conduire très loin, et ça peut se finir très mal. Et c'est ce qui arrive à Hippolyte.
Mais Aphrodite, il aurait dû lui rendre un culte, parce que Aphrodite, c'est celle qui permet à chacun d'accomplir son destin par la sexualité assumée.
Absolument. Et disons qu'il y a ce que Euripide met en scène dans cette tragédie parmi d'autres choses, c'est précisément la faute d'Hippolyte qui refuse de passer à l'étape ultérieure de son existence, à savoir celle d'un adulte qui assume sa sexualité et puis qui va avoir des enfants. Et donc on voit bien que Hippolyte, en honorant exclusivement Artémis, souhaite se maintenir dans un état permanent de non-consommation de la sexualité. Et donc il refuse d'avancer dans le processus normal de son existence. Et donc par le biais de cette histoire d'honneur rendu ou non rendu à des divinités, c'est toute la nécessité pour un citoyen de la cité d'Athènes, puisque c'est à eux que Ripide s'adresse, d'assumer son destin d'époux, de père, et donc de passer par la sexualité patronnée par Aphrodite.
Oui, mais vous dites la sexualité patronnée par Aphrodite, comme si Aphrodite, c'était seulement la déesse attachée aux questions de sexualité. L'embarras doit être d'autant plus grand pour les Grecs que ces dieux, qui ne sont pas vraiment des personnes, qui sont des puissances multiples, polyvalentes.
Absolument. Alors, là, je crois qu'il faut être extrêmement clair. D'abord, si je parlais de la sexualité, c'est parce qu'évidemment, ça fait partie du cœur de cible du culte d'Aphrodite. Ça ne veut pas dire que c'est une attribution exclusive. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous avez toute la question de la polyvalence qui n'est pas non plus un chaos absolument indémêlable. C'est-à-dire que tous les dieux ne font pas tout. Jean-Pierre Vernant, dans l'extrait que vous avez passé en tout début d'émission, le dit très bien. Il y a de multiples histoires sur les dieux, mais on ne raconte pas tout et n'importe quoi. De la même manière, le choix qui est fait par les Grecs d'honorer telle ou telle divinité dans telle ou telle circonstance est commandé par un faisceau de possibilités au sein des compétences d'un dieu ou d'une déesse qui est chaque fois redéfinie.
Alors, on ne dit pas n'importe quoi, j'ai entendu votre leçon. Vous allez détester le choix qu'a fait Audrey Ripouille à cet instant de l'émission, notre choix musical. Il ne faut pas classer les dieux par spécialité, il ne faut pas les ranger par étagère, il ne faut pas mélanger leur nom latin et leur nom grec. Vous devez détester la belle Hélène.
Ah mais non, au contraire, ah je bon suis une fan absolue de la belle Hélène.
John Haller, Jean-Philippe Lafont, l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson.
Allez, au sacrifice.
Un mot, n'êtes-vous pas le grand augure de Jupiter ?
Oui, c'est moi, Calchas. Mais je suis occupé, un sacrifice déjà très en retard.
Le sacrifice attendra. Je viens pour une affaire pressante.
Si vous croyez que je me dérange comme ça pour le premier berger venu...
Écoutez-moi, vous n'avez pas reçu une lettre de Vénus ?
Pas le moins du monde.
C'est singulier, la colombe est partie devant moi.
Vous savez que je n'y crois pas du tout à votre lettre de Vénus et à votre colombe.
Vous n'y croyez pas ? Eh bien, regardez.
Quoi ?
Là-bas, dans l'azur, ce petit point noir qui grossit.
Eh bien, c'est un Pierrot.
C'est ma colombe. Et c'est ma lettre.
Mais le fait est...
Vous voyez ?
Il est vrai.
Prenez la lettre. Elle est pour vous. Voilà.
Quoi ? Ce serez-vous, ce Paris ? Le fils du roi Priam ? On ne parle que de vous à Sparte dans toute la Grèce.
Moi-même.
Ainsi, vous avez vu la déesse.
Un peu.
Mon Ida, toi, déesse, se querelle dans un bois. Qu'elle dise ses princesses, la plus belle de nous trois. Et mon Ida, ses déesses, pour enjoler les garçons.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et avec le commentaire toujours sérieux de la nouvelle titulaire de la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique au Collège de France, Vinciane Pirenne Delforge. Donc la belle Hélène...
Ah, je suis vraiment très... Comme je disais avant l'extrait, je suis absolument fan intégrale de la belle Hélène. Parce que c'est vrai, bon, vous évoquez mon sérieux, j'essaye de faire mon métier sérieusement, comme quiconque, mais je dois dire que les actualisations et les reprises des mythes de cette manière-là, c'est absolument délicieux. On est dans un tout autre genre. Et donc là, je ne peux qu'applaudir à deux mains.
Mais entrevoyant le Panthéon, mais pas tout, les Grecs, comment faisaient-ils leur choix ?
Bien écoutez, c'est vraiment une question qui est centrale dans mon investigation depuis maintenant pas mal d'années. Alors, évidemment, ce sont des questions que nous posons, nous, parce que nous n'avons plus accès à un accès direct à ce système religieux. Comme je dis souvent, le polythéisme est un langage et nous ne sommes plus des locuteurs natifs. Donc, nous avons un problème d'accès à la compréhension du système. Et donc, le choix, je pense que dans un certain nombre de cas, il était commandé par la tradition familiale, par la tradition civique, et on savait quand on avait tel problème, il y avait tel dieu du Panthéon qu'il fallait solliciter. Puis d'autres cas étaient sans doute plus sensibles et nécessitaient une réflexion, une expérimentation, voire une consultation oraculaire pour essayer de demander aux dieux eux-mêmes à qui il fallait sacrifier pour obtenir un bienfait. Et donc, ce sont des expérimentations permanentes que nous devons essayer de reconstituer. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus fascinant dans cette recherche.
Et comment les dieux faisaient-ils leur choix eux-mêmes? Alors là, je vous amène un dernier exemple. Nous sommes dans l'Orestie. On se souvient que Oreste a trouvé juste de tuer sa mère, Clytemnestre, pour le rôle néfaste qu'elle avait joué dans la mort d'Agamemnon. Et Oreste est poursuivi par les Érinies, des vieilles méchantes. Il va solliciter l'aide d'Apollon, qui va lui conseiller de se présenter au temple d'Athéna à Athènes. Alors, beaucoup de déplacements. Comment la consultation va-t-elle se faire? Eh bien, par le vote. Nous sommes ici dans une mise en scène de Bernard Sobel, et Apollon, c'est le jeune Didier Sandre.
Pour moi, je vous l'ordonne. Qu'on révère mes oracles, les oracles de Zeus, et ne les prive pas de fruits.
Je n'ai pas droit non plus de décider sur un meurtre commis par colère aiguë. D'autant que tu es venu en parfait suppliant, purifié, sans dommage pour ma demeure. Et je te tiens aussi pour sans reproche à l'égard de la cité. Pour l'heure, portez le vote et tranchez le procès en respectant votre serment. J'ai dit.
Une vasque est là, couverte d'un tissu sous lequel chacun va déposer un caillou, noir ou blanc. Les Érinies, les vieilles, sont toujours furieuses et on va entendre pour finir Athéna.
Dieu nouveau ou dieux anciens, nul ne t'honore, c'est moi qui l'emporterai.
Puisque tu me piétines, toi, le jeune, moi, la vieille, j'attends d'entendre le jugement pour décider de ma colère contre la cité. Les affaires sanglantes ne sont pas ton lot. Jamais plus elles ne seront pures, la prophétie que tu dispenses.
C'est à moi qu'il revient de voter en dernier. Mon vote est pour Oreste. Et je l'ajoute ici. Car, nulle mère ne m'ayant enfantée, je me rallie au mal en toutes choses et de tout cœur, jusqu'à l'hymen exclusivement. Et je suis sans réserve du côté du père. Si les votes sont égaux, la victoire est pour Oreste.
Athéna, double voix, Irina Dahl, et puis parmi les Érinies, on aura peut-être reconnu Denise Jans, et puis on l'entend tous les jours à la marge de l'histoire, Maria Cazares elle-même. Vinciane Pirren.
Alors, c'est là encore, nous avons affaire à une tragédie tout à fait intéressante pour celui qui travaille sur le polythéisme antique, dans la mesure où vous avez une très belle illustration de la manière dont la cité d'Athènes s'approprie des récits très anciens et les inscrit dans l'actualité de sa cité. C'est-à-dire que vous avez véritablement une réflexion dans cette tragédie sur le rapport à l'ordre ancien. À l'ordre ancien qui est celui de la vengeance, qui est celui du sang versé par honneur, qu'incarnent ici les Érinies, et puis la question de la loi, la question du droit qui s'impose et qui doit désormais s'imposer plutôt que ce recours à la violence. Et vous avez donc Apollon et Athéna qui sont censés être les dieux jeunes, puisqu'ils sont les enfants de Zeus, qui s'opposent à cet ordre ancien. Et donc, c'est une très belle illustration, encore une fois, de la plasticité de ces récits. Alors, on l'a vu avec la Belle Hélène au XIXe siècle. Mais évidemment, là, au Ve siècle, nous sommes encore dans un temps où Athéna, Apollon, les Érinies ont des cultes, ont des sanctuaires dans la cité. Donc les spectateurs de la pièce voient en action les dieux qu'ils honorent par ailleurs. Et ce n'est pas incompatible. Vous avez donc cette plasticité du polythéisme qui se traduit dans la tragédie, qui est absolument fascinante.
Et la parole des dieux, fondée sur la défense de l'ancien monde ou du nouveau monde, c'est pas du caprice.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est la revendication d'un hommage nécessaire. La revendication d'un hommage nécessaire dans la mesure où tous les dieux sont susceptibles de recevoir l'hommage des humains. D'ailleurs, Eschyle l'a très bien compris, puisqu'à la fin de la trilogie, les Érinies vont recevoir un culte. Pourquoi s'apaisent-elles ? Parce qu'elles reçoivent les honneurs qui leur sont dus sous la forme des Semnaitei, donc les déesses vénérables, qui ne sont plus les horribles figures, voilà, avec les serpents dans les cheveux qui poursuivaient Oreste, mais qui deviennent les déesses apaisées, mais qui reçoivent un culte. Parce que c'est la règle. Même elles, de l'ordre ancien, doivent continuer à être honorées. Et ça, c'est aussi un des messages de la tragédie.
Mais je vous parle de caprice parce que si on prend les Hommes des Lumières, par exemple, qui disaient « les Grecs ont inventé le logos, ont introduit la rationalité » et en même temps, ajoutait-il, Fontenelle, que vous citez, « qu'est-ce que c'est que tous ces caprices et ces extravagances ?»
Et tout à fait. Ça, c'est la vision d'un philosophe des Lumières qui voit évidemment une incompatibilité entre le rationalisme à la grecque et le polythéisme foisonnant. Et c'est vrai que nous sommes encore, dans une certaine mesure, les héritiers de cette vision des choses. Et c'est pour ça que je pense que l'étude approfondie du polythéisme grec est vraiment extrêmement importante pour mieux comprendre ce monde grec dans toute sa richesse et dans tout ce qui nous apparaît comme des contradictions, mais qui n'est pas nécessairement assumé comme tel par les Grecs. Je pense qu'un philosophe comme Épicure, qui fonde une école centrée autour d'un culte, ou du culte des muses, ou du culte de divinités particulières, ne ressent pas ça comme une contradiction. C'est notre vision des choses qui voit des contradictions, là où il n'y en avait pas nécessairement pour les Grecs.
Ça veut dire qu'un rationaliste peut dire des religions ou d'une religion qu'elle n'est pas un mirage.
Bien sûr, ça je pense qu'effectivement on doit envisager cette hypothèse-là, cette possibilité-là.
Ça a une utilité, cette pratique apaisée de l'étude comparée des religions, ou bien nous sommes dans un tel climat de non-écoute,
oui,
l'apaisement est impossible.
J'aime à penser que c'est possible, mais quand je vois le temple de Baal à Palmyre qui explose, je suis comme tout le monde effondré.
Merci Madame la Professeure. Votre leçon inaugurale est publiée dans la collection commune du Collège de France et des éditions Fayard. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Antoine Gomez.